Comment résister au rythme imparable de ce générique, n'est-il pas ?
Exactement.
514e émission de Plume et Pinceau qui vient donc de commencer avec ce rythme endiablé de notre générique. Une émission en duo. Hein, c'est la première d'ailleurs qu'on fait tous les deux.
Mais oui, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour Matadora. Effectivement, l'ami Roger est encore une fois absent et encore une fois pour des circonstances indépendantes de sa volonté et bien triste. Nous avons appris le décès d'une bonne copine, Marie-Jo, qui était une auditrice de cette émission. Elle avait même fait 2-3 chroniques qu'elle avait envoyées quand on avait un peu ouvert la possibilité aux auditeurs. Et vous pouvez toujours le faire d'ailleurs, de nous envoyer des chroniques. C'était une femme qu'on aimait beaucoup et puis la maladie l'a emportée. Et c'est bien triste. On va d'ailleurs lui dédicacer le premier morceau qu'on va s'écouter parce qu'elle a fait aussi partie des Billy the Kick et les Gamins en folie. On va retourner dans nos années lycée.
Retour en arrière.
Clairement, avec OCB, quoi. C'est une belle manière de se souvenir de Marie-Jo, finalement. C'était sympa de réécouter ça.
Ouais. Ça ambiance toujours autant. Hein. On a envie de fumer des cigarettes qui rigolent instantanément.
Clairement. Mon Dieu. Que d'émotion. On voulait parler d'Angoulême, mais en fait, vous avez ramené un album qu'on va peut-être évoquer en premier.
Oui. Ouais.
Parce qu'il y a un lien avec Angoulême et avec ce qui s'y passe, parce qu'elle a pris position, si je ne me trompe pas.
Absolument. Je vais vous parler du dernier livre d'Anouk Ricard. Mm. Fabienne, donc Anouk Ricard, qui avait remporté le Grand Prix l'année dernière.
Exactement.
Évidemment, je crois qu'on peut assez difficilement passer à côté de ce qui se passe à Angoulême cette année. C'est une histoire sans fin. Une sacrée histoire. C'est vraiment un truc à rebondissement. Chaque jour, il se passe un nouveau truc. Mm. Donc, je vais déjà vous chroniquer cette nouvelle BD et on parlera de tout ça après du coup. Du coup donc Anouk Ricard vient de sortir cette mignonne petite BD, toute verte, avec une toute petite tête qui dépasse dessus, et c'est la tête de Fabienne.
C'est une couverture minimaliste. Hein.
Minimaliste, mais souvenez-vous, pour Animan, c'était une grande BD rose, et on avait juste une paire de moustaches, un nez et des yeux. Et là, donc, Fabienne, c'est une suite, si l'on veut, à Animan, puisque Fabienne, c'est une petite grenouille, et c'est la femme de Francis, que l'on connaît sous le nom d'Animan. Francis, donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas lu Animan, c'est un petit personnage qui a la faculté de se transformer en différents animaux. Et il a un ennemi juré, son pire ennemi de toujours, c'est Objecto, qui a des grandes dents et une paire de lunettes, et qui, lui, a la faculté de se transformer en différents objets. Objecto a un but ultime dans la vie, c'est nuire à Animan. Et donc ça, on va le retrouver dans Fabienne. Mais cette BD, c'est vraiment l'occasion de s'intéresser à ce petit personnage, puisque Fabienne, c'est la femme de Francis. Fabienne, c'est la femme d'Animan. Fabienne ignore tout de l'identité de son mari. Elle est persuadée de vivre avec un thérapeute pour animaux, moustachu, qui a quand même la fâcheuse habitude de se promener à poil. Donc ça, elle le remarque, elle trouve ça un peu curieux, mais manifestement, oui, ça ne lui pose pas trop de problèmes. Après, elle se dit, après tout, moi, je suis une grenouille. Bon,
oui.
Il se passe des trucs chelous, c'est pas si étonnant. Et du coup, on va découvrir comment Fabienne est devenue une petite grenouille. Parce que figurez-vous que Fabienne n'était pas à l'origine une petite grenouille.
Ah, c'est comme ces princes qui se transforment en grenouille, il y a un truc.
Absolument. Sauf que là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Du coup, Anouk, Ricard nous emmène une fois de plus dans son univers complètement absurde, déjanté, auquel moi, j'accroche particulièrement. Je vous avoue que moi, vous me présentez cette petite BD, instantanément, je l'achète ou je la lis, en tout cas. C'était vraiment trop bien de retrouver l'univers d'Animan que j'avais, je ne vous le cache pas, et évidemment, vous en doutez, adoré. Il y a aussi, dans cette petite BD, Fabienne tient un journal, donc on a des pages aussi de ce journal où elle explique un petit peu son ressenti. On va vraiment s'intéresser à la psychologie de cette petite grenouille. Et ça en fait un album absolument génial, hyper divertissant, toujours très malin. Alors, qui se mettra peut-être pas entre toutes les mains, puisque c'est un humour très particulier. C'est un dessin aussi particulier, un dessin d'Anouk.
Prenons un type d'un certain âge qui aime le gros nez. Ouais. Est-ce que ça va lui parler, ce genre de choses?
Écoutez, pourquoi pas? Parce que
il avait été
particulièrement étonné et sensible à Animan. Et je crois d'ailleurs, j'espère ne pas me tromper, mais je crois que c'est un livre qu'il avait offert à Marie-Jo justement pour lui remonter le moral dans des moments difficiles. Et du coup, je pense que malgré tout, ça pourrait lui plaire. Il n'irait pas vers ça forcément, mais le forçant un peu, il pourrait aimer. J'en suis sûre.
En tout cas, c'est vrai que c'est un joli petit album.
Ouais, c'est sympa le petit format.
Ouais. Avec le dessin qu'on connaît effectivement.
Un dessin un peu naïf, ouais.
C'est ça. Un faussement ligne claire.
Oui.
Faussement ligne claire, mais un peu simpliste, ouais. Et très coloré.
Très coloré, et puis. Je sais pas, elle est forte, moi je trouve, pour les petites expressions. J'utilise beaucoup le mot petit parce que tout est petit et mignon dans cette BD. Mais elle est hyper forte pour faire passer plein de choses.
C'est une BD choupinette,
ouais. Mais avec beaucoup de suspense et d'action.
Oui, avec beaucoup de suspense. En tout cas, ça a l'air très sympa. Et c'est paru chez ?
Et c'est paru aux éditions Exemplaires.
Ah bah oui,
évidemment
une maison sérieuse,
absolument,
on va dire, et qui traite bien ses auteurs.
Oui, il paraît, effectivement.
Ouais. Qu'un tout petit catalogue d'ailleurs, ils investissent vraiment les projets qu'ils sortent, je crois que c'est l'idée, c'est vraiment des livres auxquels ils croient et auxquels ils veulent absolument donner soutien.
Avec des auteurs qui sont libres aussi dans leurs promos, il y a des collectes de fonds, des crowdfunding pour faire plaisir à monsieur Roger qui n'est pas là. Et du coup, c'est une maison chouette, et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on vous parle de cette maison d'édition, et vraiment il y a des petites pépites, donc...
Euh, Monsieur Pochep et d'autres. Ouais. Et tous ceux qui y sont sont très contents.
Oui, d'après ce que j'entends. En tout cas, ouais. Ça a pas l'air de, ça ne grogne pas en tout cas.
Et en tout cas, donc Anouk Ricard, pour revenir finalement à ce qu'on a évoqué nous hors antenne et qui, à mon avis, on est obligé d'évoquer parce que ça fait un tel ramdag, a pris position effectivement dans tout le contentieux qui oppose plus seulement les auteurs, puisque apparemment les éditeurs sont mêlés, et quand l'éditeur s'en mêle, là on franchit un cap quand même.
Ouais, c'est clairement de la désertion là cette année à Angoulême. Après, alors on peut peut-être faire un petit rappel des faits pour les personnes qui n'auraient pas tout suivi.
Ah, parce que c'est une histoire à rebondissement.
Oui, c'est incroyable, il se passe des choses.
Mais ça fait un moment que ça chie dans le ventilo, j'ai envie de dire.
En fait, l'édition de l'année dernière, en fait, ça a commencé à ce moment-là.
Très compliqué déjà.
Il y a eu l'histoire de cette salariée qui a été manifestement violée et licenciée par la suite pour mauvais comportement, enfin un truc complètement lunaire. Et du coup, ça a été
la goutte d'eau, ça.
Parce que ça fait plus de 20 ans maintenant que l'association
9MR Plus.
FIBD fait confiance, confie la gestion du festival à 9MR Plus. Oui, c'est ça.
C'est ça. Avec Franck Bondou.
Ouais, c'est ça. Et ils se sont rendus compte que le fonctionnement financier était quand même plutôt opaque. Il y a eu l'affaire Vivès, il y a des burn-out à répétition. Je disais qu'il y avait en direction artistique, il y a eu 7 DA
apparemment,
en 5 ans. Il y a un turnover de fou, il y a un déficit, il y a rien qui va en gros. Et puis il y a eu une petite dérive marketing aussi, parce que je crois que l'année dernière,
ils ont
fait appel à des grosses chaînes de fast-food un peu.
Et à des sponsors pas toujours hyper recommandables. Ouais.
Et puis il y avait eu tout le débat aussi autour du prix Raja, je me souviens à l'époque. Un prix environnemental, alors que
des sponsors étaient antithétiques, on va dire. Paradoxe.
Ça fait un petit moment que ça part un peu en vrille.
On peut plus être disruptif de nos jours.
Non.
Ça passe plus, ça se voit. Non, mais apparemment, effectivement, cette structure et surtout celui qui est quand même beaucoup pointé du doigt. Moi, je le connais pas personnellement, mais c'est ce Franck Bondou là.
Ça a pas l'air d'être une très belle personne d'après les journaux.
D'après ce
qu'il
se dit.
Il y a une grosse enquête dans l'Humanité, je crois.
Luma, Libé, partout maintenant. On n'a jamais autant parlé de BD, quelque part. C'est que pour des trucs tout pourris.
Ouais.
Tout pourris. C'est peut-être aussi le signe que la BD commence à être, un art à part entière. Parce que pendant très longtemps, finalement, cette gestion un peu à la One Again passait, quoi. On était encore dans l'amusement, dans la juvénile, quoi. On ne faisait pas attention aux détails.
Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi, et à juste titre, des auteurs, des autrices qui se sont rendus compte que c'était quand même sur eux que ça reposait, en fait,
exactement.
Que sans eux, il n'y a rien, que sans les éditeurs, il n'y a rien, sans les festivaliers, il n'y a rien, et peut-être on pourrait leur apporter un peu plus de crédit, les considérer, en fait, tout simplement. Et je crois que ça fait partie des revendications, et là, il y a eu toute une levée de boucliers, je ne sais plus combien il y a de signataires, mais je n'arrête pas de voir sur Instagram des boycotts de toutes les autrices, tous les auteurs, et effectivement comme vous le disiez tout à l'heure, il y a les éditeurs qui se retirent également.
Et puis pas n'importe lesquels, on est sur du Dargo, du Dupuis, Lombard, Urban Comics, Cana,
c'est vraiment des gros groupes qui désertent. Je me demande ce que ça a donné.
Ça va être plein de stands vides.
Ça va être un grand hall. Un grand hall qui résonne.
Avec un ou deux food trucks et puis un stand. Engagez-vous dans la marine nationale.
L'horreur.
Un truc dans le genre. Mais c'est assez terrible parce que ça reste quand même le festival numéro 1.
Oui, bien sûr.
Alors évidemment, il se doit d'être exemplaire. De toute façon, ça fait long. Nonobstant toutes ces questions financières, la place qui était accordée aux autrices aussi, il y avait vraiment des tas de trucs.
C'était 2016, je crois qu'il n'y avait pas une autrice. Ouais.
Il a pris tous les débats qui agitent le monde de la bande dessinée en premier parce que c'est le number one. Ouais. Autant qu'il débute à côté, il est finalement hyper calme. Et reste dans une ambiance.
Il y a eu des petites choses là cette année contestables, mais c'est vrai que on n'est pas dans la. En fait, il n'y a pas tout ce problème de gros sous et d'intérêt personnel à ouais. Quai des Bulles. Ce qui est un vrai problème à Angoulême, c'est que le mec, il s'enrichit comme un gros dégueulasse sur le dos de plein de gens, en fait.
Oui, il pourrait vendre ça comme des cravates ou des mitrailleuses, quoi.
Exactement.
Mais, enfin, moi, à Quai des Bulles, en tout cas, j'en ai pas d'auteurs qui étaient pas contents d'être là, quoi. Généralement, ils sont même plutôt, ils ont l'air assez détendus. Ça reste très, familial, quoi.
Ouais, c'est un festival c'est quand même le deuxième plus gros de France, et c'est un festival qui garde une dimension familiale agréable. Après,
il y a quand même,
artistique, et où j'ai l'impression, je l'espère en tout cas, que toutes les autrices, tous les auteurs se sentent considérés et accueillis et considérés à leur juste valeur. Ouais. Enfin, j'espère. Après, ce sera intéressant de leur poser la question. Je sais pas, dans les interviews que vous avez pu faire là-bas.
Nous avons, on a vu Nicobi, et puis là sur place, on a revu d'autres gens, Joub, etc. C'était plus des considérations financières.
Oui.
De toute façon, on sait que la culture maintenant, on cherche les sous, quoi. Mm. Et ils ont dû opérer plein de d'économies quelque part. Même dans les expos, il y en avait moins, par exemple.
Ouais, il y avait moins.
Pour Franquin, du coup, c'était même hardcore pour y accéder, quoi. C'est un peu dommage, mais après, c'est le victime du succès aussi de Franquin, quoi. Mm. On était très très nombreux dans la pièce. Pardon, excusez-moi. Pardon. Je voudrais juste regarder.
Je vois un petit bout du nez de.
Ah non, c'est Roger. en tout cas, bon, à l'heure actuelle, on ne sait vraiment pas où on va.
Non.
Ça, c'est sûr, parce que même les quelques, on va dire, tentatives d'apaisement, par exemple, 9 heures plus, apparemment, finalement, on va se retirer de l'organisation. Mais c'est prévu que pour 2027, si j'ai bien compris.
C'est ça, ça ne va pas être fait tout de suite. Et en fait, ils veulent. Alors, l'association.
Propriétaire du festival.
FIBD, il y a eu une réunion exceptionnelle où finalement ils disent qu'ils ne referont pas appel à eux et que du coup ils relancent un appel d'offres, etc. Mais pareil, oui, effectivement, je crois que sur 2026 et 2027, c'est foutu, ça reste bon.
Il doit y avoir un engagement contractuel et puis on ne peut pas rompre un contrat comme ça. Des tas d'avocats doivent être déjà prêts en train d'étudier les dossiers, la linéa B, etc. J'ai l'impression que c'est un gros bordel. Et alors, qu'est-ce que va être ce... C'est peut-être le festival à pas louper. Je dis pas que tu viendras une dédicace, mais reportage sur place, ça doit être hyper intéressant.
Je pense que de toute façon, ce serait bien qu'effectivement qu'il y ait des gens qui puissent rapporter ce qui se passe sur place malgré tout.
Ouais.
Et après, c'est l'occasion aussi. On avait cette discussion hier soir des collègues libraires et auteurs. C'est aussi.
C'est vrai que vous aviez une grosse soirée.
Oui, c'était trop bien. Et du coup, c'était qu'est-ce qu'on pourrait faire nous, libraires ou acteurs du monde de la bande dessinée, pour compenser un peu ça, se dire est-ce que c'est pas l'occasion de monter des petites choses dans les villes avec les collectivités, essayer de faire vivre des moments de rencontre comme ça dans des grosses villes, faire des gros points un peu partout, on pourrait accueillir des autrices et des auteurs pour des échanges, des rencontres, des dédicaces. Ça, ce serait cool de compenser par ça, et en même temps ça tombe au mois de janvier et nous, clairement, là, on est dans une période où ça va être très, très difficile de monopoliser du temps pour mettre en place un mini-festival, en gros.
Oui, oui. Après, c'est comme ça que ça se lance aussi, un festival.
Oui, tout
mais
à fait.
À un moment, à Rennes, comment ça s'appelait, Alphagraph avait lancé un petit festival un peu indé, Périscopage, je crois que ça s'appelait. Ça date un petit peu, ça a disparu. Ça nous avait permis de rencontrer Bouzard avec l'ami Roger.
Trop bien.
Oh, une histoire de dingo. Il pleuvait comme vache qui pisse. Le pauvre Bouzard était arrivé des Deux-Sèvres, puisqu'il habite par là-bas. Mm-hmm. On le rencontre au café. Je vous raconte ça, mais tout le monde s'en fout. Mais c'est pas grave, moi, ça me fait rire. Et puis, donc, on va au café, quoi. Et il y avait un type complètement bourré qui est venu s'asseoir à côté de Bouzard et qui a vomi sur la table.
Oh,
et devinez, c'était une connaissance à qui ? À l'ami Roger. Ah, un grand moment de radio.
Ah oui, tu veux. Les belles anecdotes.
Ah, on en a plein des comme ça. On pourrait faire un bouquin.
Mais il faut.
Mais en tout cas, c'est sûr que c'est curieux que Rennes d'ailleurs n'ait jamais rien fait finalement, parce que on est quand même une ville où on a
oui,
un lectorat.
Et puis un vivier d'auteurs. Il y a la Vilaine qui fait souvent des soirées, mais c'est vrai qu'il y a pas de festival. Comment ça s'appelle le festival où il y a West Hurlant, où on retrouve des auteurs et autrices parfois.
Mais tu as BD,
BD,
Saint-Malo, il y en a des petits finalement périphériques à Rennes.
Ouais.
Mais il s'est jamais. Alors c'est peut-être que justement les zones, le calendrier, etc. fait qu'il n'y a pas de créneau.
Ouais, effectivement c'est possible. Et puis, mais il y a là pour les 20 ans d'une librairie dont nous tairons le nom, qui se trouve proche du Parlement. ils avaient organisé une sorte de petit festival pour fêter les 20 ans justement. Et ça fonctionnait plutôt bien. Il y a eu sur 2-3 jours, il y a eu des rencontres, des dédicaces. Et c'est vrai que c'est un format sympa qui demande beaucoup qui demande des moyens, qui demande du temps, etc. Mais qui est quand même relativement chouette. Et c'est vrai qu'il faudrait réfléchir.
Vous avez eu des retours d'ailleurs sur cet event? Parce qu'on en avait parlé avec Roger, parce qu'on avait eu l'info.
Oui.
Ni lui ni moi n'avions pu nous déplacer.
Eh bien, le retour, c'était que... Alors, je ne sais plus si c'est sur le premier jour, ça a eu du mal un peu à partir, mais ce n'était pas un jour de week-end.
Deux semaines.
Ouais, c'est ça. Et une fois arrivé sur le week-end, il y a eu vraiment du monde. Et a priori, tout le monde était très content.
C'est cool.
C'est vraiment des petits endroits. Du coup, les auteurs et autrices entre eux peuvent se retrouver. C'est vraiment un petit groupe. C'est assez sympa. Et puis, les gens, ça leur permet aussi de découvrir des librairies sous un autre angle, et ça, c'est chouette.
Ouais, très bien. En tout cas, que va-t-il se passer à Angoulême en 2026?
Mystère. On en sait un peu plus chaque jour.
Ouais,
restez
ouais,
connectés,
oui.
quoi.
Surtout là, en ce moment, là, ça rebondit tous les jours. Je ne sais pas s'il y a un lien avec votre programmation musicale antisociale.
disons que c'est quand j'entends tout ce genre d'infos, moi, c'est un petit peu ce que ça m'évoque. J'ai envie de me dire, après tout, fuck.
Ok, alors Lars Frederiksen and the Bastards. Attention, pas n'importe quel antisocial non plus. Sans vouloir critiquer, voilà. Anti-social. ça pour rappeler à Fred qu'il faut jamais croire à un hippie. Never trust a hippie. Il comprendra pourquoi je lui dis ça. Il comprendra. Dans notre désir de parler d'Angoulême, on a oublié d'annoncer un truc quand même, Matadora. Roger va nous mettre un mauvais point. C'est qu'on a une petite interview quand même à s'écouter.
Ah oui, tout à l'heure.
Ah bah oui, un monsieur vraiment très gentil, qui a fait des gros efforts, Roulen Ribas, je ne sais pas si je le dis bien, est un auteur basque espagnol qui a bien voulu répondre à des questions à Roger et à moi en français.
Ah, cool.
Avec son petit accent, c'était très, très choupinet. C'était très choupinet. En fait, on l'avait rencontré pour un album que Roger avait chroniqué, qui s'appelait Artifice. Une histoire avec Houdini, le magicien, qui était envoyé dans l'Algérie coloniale pour essayer d'épater la galerie et montrer qu'il était plus fort que tous les magiciens locaux. C'est un album paru chez Daniel Magen et on s'écoutera ça en fin d'émission.
Ça marche.
Voili, voilà.
Vous n'avez pas chômé à Quai des Bulles, à ce que je vois.
Non. Beaucoup de boulot. J'étais assez impatient de lire en fait le nouvel album de Inayo Asano. Je ne sais pas si c'est votre cam. Je crois que c'est plus celle de Carpetto.
C'est celle de Carpetto. Moi, j'ai aimé certaines choses, mais là, j'avoue, quand il m'a pitché celui-là, j'étais un peu moins emballée, va laisser les auditrices et les auditeurs juger.
Ouais, alors c'est quand même un auteur donc japonais de manga qui nous propose un nouveau seinen qui est plutôt un bon auteur quoi. Bonne nuit Poun Poun, c'est vraiment un très très chouette album. Dead Dead Demons Destruction, c'était super chouette aussi. Solanine, je sais pas comment on dit, c'est vraiment très chouette. Toujours des idées, des histoires un peu d'adolescents un peu en marge.
En fait, il a une fine analyse, je trouve, de la société, de la jeunesse japonaise. En fait, c'est ça qui est assez agréable.
Va vraiment au fond de ses personnages intimistes, c'est très psychologique.
Tout à fait.
Et c'est vrai que c'est un peu déroutant, cet album-là, parce que il n'y a pas vraiment moi, je ne l'ai pas trouvé, cette dimension-là. Okay. C'est apparemment une nouvelle série, je ne sais pas du tout combien de tomes il va y avoir. Ça s'appelle Mujina Into the Deep. Alors, c'est une dystopie. On est dans un Japon où il existe finalement deux classes sociales. Soit tu as l'espèce de la right card, la carte qu'il te faut, qui te permet d'accéder à vraiment, de profiter des infrastructures de la ville, enfin qui te donne des droits, qui fait de toi, on va dire, un individu reconnu par la société. Soit tu l'as pas, et alors là, démerde-toi. Voilà. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas très clair.
Okay.
Ah, voilà, c'est pas très clair, c'est vaguement associé au vieillissement de la population, mais j'ai pas compris vraiment pourquoi c'était comme ça. Bon, partons du principe que c'est comme ça, on a une société à deux vitesses. On va suivre en fait un des personnages, un de ces 100 cartes, une jeune fille,
Ubume, ouais, certainement.
Une adolescente, voilà, qui est donc une de ces Mujina. Une de ses 100 cartes, et qui est devenue tueuse à gages. Elle a une espèce de katana. Ça fait un peu un personnage comme dans un ronin, tu vois, dans la culture japonaise, un samouraï qui s'en maître, et donc qui est alloué. Et donc, elle fait des contrats comme ça. Et elle va rencontrer deux autres personnages dans ce premier tome. Terumi. Donc lui, c'est un cadra, il est dans le jeu vidéo, il est un peu en burn-out, il est un peu cramé. Et Juno, qui est une jeune fille qui vient d'arriver à Tokyo. Elle est fugueuse. En fait, elle a fui le lycée où elle était, dans la cambrousse, victime de harcèlement. Un truc qu'on a vraiment très, très présent dans la littérature et dans le cinéma japonais.
Ah bah oui, clairement. C'est un phénomène de société, je pense que ça doit prendre beaucoup de place.
Ça fait peur, ça fait vraiment très, très peur. Et par un concours de circonstances, ils vont se retrouver associés. C'est un peu le club des losers. C'est un peu le club des losers. Des marginaux, un truc assez classique finalement chez notre auteur. Il y a un autre personnage qui plane, alors c'est la méchante de service, c'est Tenko. Elle aussi, c'est une Mujina, elle aussi, elle a un sabre comme ça. Elle a un pet au casque, quoi. Elle est un peu dans l'idée de se faire Ubume. Puis elle a trouvé le moyen elle diffuse beaucoup sur les réseaux sociaux ce qu'elle fait. Donc elle a trouvé un peu moyen d'être un peu starifiée et de gagner de l'argent comme ça. On sent qu'il y a un conflit en germe. On sent que nos trois personnages vont vivre une histoire en commun. Mais le problème en fait de cet album, c'est que pour le moment, on sait vraiment pas où on va.
Ouais, c'est un début de série.
Ouais, c'est un début de série.
Des choses, ouais.
Mais vraiment, on nous laisse en suspens. Alors, l'album en lui-même n'est pas inintéressant parce que c'est efficace, hein, graphiquement, c'est très efficace. À un moment, nos deux Mugina là, s'affrontent au sabre. Alors là, c'est vraiment les films de Shambara, quoi. Ça saute partout, chac, ça essaye de se découper. Vraiment, les scènes d'action sont hyper cinématographiques.
Okay.
C'est super bien. Il y a des plans urbains, des plans larges urbains que je trouve très réussis. Le spectacle de la ville est vraiment très chouette. Après, il y a des trucs un peu lourdingues. Il y a un peu de cul, mais du cul, enfin, pas des scènes de sexe, vraiment du cul un peu gratuit, qui déboule là-dedans.
C'est ce que disait Carpetto, ouais, il a évoqué ces scènes-là, effectivement.
Et tu sais pas vraiment où tu vas, parce que tes personnages, tu n'as pas justement ce qui faisait tout le sel un peu de notre auteur, c'est-à-dire leur profondeur psychologique, leurs états d'âme, etc. Là, tu restes vraiment quand même très en surface. Tu sais pas si tu vas vers un blockbuster Shambara, ou est-ce qu'on va s'intéresser finalement au monde où on est, et est-ce que nos marginaux vont, réagir au monde dans lequel ils vivent, parce que c'est franchement une société très inégalitaire. Du coup, c'est un peu un pari finalement de se lancer dans cette série, quoi. Donc si vous êtes joueur, allez-y. Autrement, attendez peut-être je sais pas, une émission de radio avec un point de vue très ajusté quand même sur ces. Vous chroniquez le tome 2, voire le tome 3, et vous dites, vas-y petit, ou alors.
C'est bon, c'est nickel.
Investis sur autre chose. Mais en tout cas, bon, c'est pas mauvais. Ça tient surtout pour finalement ses qualités graphiques et de découpage que pour l'histoire. Parce que vraiment, t'es dans un flou, quoi. T'es vraiment dans un flou narratif.
Et après, alors pour les personnes qui ont l'habitude de lire du manga. Je pense que c'est des gens qui sont habitués à avoir des premiers tomes comme ça où ça peut. Moi, je me souviens les premiers tomes de, alors dans un autre
registre,
mais premier tome de Frieren, le premier tome d'une autre série, la Mission in the Apocalypse. C'est des, il y a des choses, c'est un peu long
Mission
à se mettre
en.
C'est trop bien, mais c'est long à se mettre en place le premier tome. On peut imaginer.
C'est presque celui que j'ai préféré parce que je trouvais qu'il y avait un spleen dans ce premier tome qui était vraiment très beau.
C'était agréable.
Ouais. Parce qu'après, c'est devenu, ça devient une aventure presque plus classique.
Elle
retrouve deux gamins, etc. Le premier tome était vraiment très, 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 très chouette.
Ouais, mais voilà. Et du coup, ça peut être aussi un exemple de se dire qu'un premier tome peut nous amener dans une direction et puis paf, après, on enchaîne sur autre chose. Mais j'entends effectivement. Et puis, ces scènes-là qui semblent un petit peu.
Tape à l'œil, en fait.
C'est ça, c'est hyper gênant et on en a souvent quand même.
Est-ce que ça va avoir une utilité? Peut-être que ça aura une utilité dans la suite, quoi.
Espérons.
Après, je sais pas, il avait peut-être envie de se faire plaisir, j'en sais rien.
Bon, il peut faire un petit carnet de croquis à côté, à la limite, pour lui.
J'en sais rien. En tout cas, voilà. Si vous voulez tenter, Mugina Into the Deep, édition Kana. Inio Asano, ça reste un seinen, ma foi, quand même fort recommandable. Fort recommandable, mais hasardeux. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Hasardeux. Oh, il est gros votre album.
Oui.
Vous avez le prix du gros album, parce que ce que j'ai après est tout petit.
Il est lourd, si lourd.
C'était pour compenser l'autre avec la petite grenouille.
Et il est alors beaucoup moins mignon, celui-ci.
Ce n'est pas la taille qui compte.
Alors, là, je vais vous présenter maintenant un gros album donc, qui s'appelle « Une invitée dans la demeure » de E.M. Carroll et qui est paru chez 404 éditions.
Très belle couverture.
Belle couverture, avec une petite phrase sur la couverture de Guillermo del Toro, figurez-vous, qui dit « La voix de Carole est singulière et puissante, j'y suis pour ma part accro ». Si ça donne pas envie.
Alors vous avez tué le game, ok.
Alors, okay. Du coup, de quoi ça cause une invitée dans la demeure? Alors, c'est. Déjà, moi, c'est une lecture dans laquelle j'ai été instantanément absorbée. C'est une BD, malgré son épaisseur, qui se lit vraiment hyper bien, hyper rapidement. On alterne entre des scènes. halluciné, rêvé d'une chevaleresse qui combat, d'un dragon, de fantômes. Et tout ça prend sens hein, quand on avance. Et donc ça, c'est des scènes qui sont très colorées.
Ça fait très, je sais pas, Nibelungen, quelque chose comme ça.
Ouais, ouais, il y a germanique. Ouais, parce qu'en plus, il y a des grosses pointes et tout.
Ouais.
Et on a ces dessins d'une part, et d'autre part, on a notre histoire qui est en noir et blanc, elle, sur un dessin beaucoup plus simple. Ce sont des grandes pages, souvent. C'est assez peu découpé. Il y a très peu de gaufriers. Et donc, on alterne ces deux ambiances. Et petit à petit, je vous le disais, ça va prendre sens. Puisqu'on suit une jeune femme, Abby. Une jeune femme qui n'a pas trop de rêves ni de désirs, qui essaye de s'habituer à la vie dans laquelle elle vient d'entrer. Elle vient de se marier avec un type qui est dentiste. Ils viennent d'emménager dans une maison au bord d'un lac. Et ce type, lui, a une fille qui s'appelle Crystal. Et donc, elle est propulsée aussi au rang de belle-mère, quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé. C'est une jeune femme qui est très seule, qui n'a visiblement pas d'amis, qui passe ses journées un peu à errer dans la maison. Et elle nous raconte ça, ses journées lentes. Et donc ça, c'est ponctué des scènes dont je vous parlais au début, des scènes où elle se rêve en chevaleresse, affrontant un monde. Donc on imagine assez rapidement que voilà, c'est son esprit qui divague, elle se laisse emporter dans ses rêveries. Et petit à petit, il y a un peu de choses questionnantes, presque malaisantes, voire horrifiques qui vont s'installer dans cette BD, puisqu'il y a il y a quelque chose qui va être développé autour de la mère biologique de la petite Crystal, qui...
On sent que vous tournez autour et que vous voulez pas spoiler.
Bah non, parce que c'est quand même plein de révélations, de rebondissements.
Ouais.
Donc je veux pas aller trop loin, mais il y a vraiment un mystère autour de cette femme qui va apparaître à notre habit, en tout cas sous les traits d'un fantôme, qui sera tour à tour vraiment hideux, horrifique, et tour à tour rêvé presque comme une princesse. Et plus on va avancer, plus on va comprendre quelles sont ces apparitions, et on rentre vraiment dans l'esprit d'Abby, et on va glisser vers complètement autre chose. On est vraiment sur du drame psychologique. Et une invitée dans la demeure, parce que évidemment vous imaginez bien qu'elle est seule dans cette maison, que dans cette maison il va commencer à se passer des choses, mais on n'est vraiment pas dans le film d'épouvante classique où tout à coup on entend des bruits de meubles qui se déplacent, des armoires qui claquent. C'est pas du tout ça le but. C'est vraiment quelque chose de psychologique et qui aura trait même à la folie. Je peux aller jusque là.
Je comprends le coup de pouce de Guillermo. Ouais.
Mais ouais, c'est vraiment, c'était vraiment. Alors sincèrement, ce livre, je l'avais aperçu, puis je l'ai oublié et je suis retombée dessus. Et vraiment, c'était un régal pour les yeux, parce que graphiquement, moi, j'ai trouvé ça remarquable. C'est vraiment très, très beau. Et c'est un livre qui va me demander quand même des relectures, je pense, parce que ça soulève plein de choses, ça questionne, ça part à des moments, enfin surtout vers la fin, ça part un peu partout, dans toutes les directions, et ça demande des relectures. Là, tout à l'heure, j'ai relu la fin, et puis je pense qu'il faudra la relire en entier, puisque c'est très très riche dans ce que ça veut nous raconter, et vraiment, un bon coup de cœur pour cette BD.
Rien que vu la taille de l'album et son épaisseur, on installe une histoire, quoi. On sent que les auteurs ont... Enfin, je ne sais plus qui vous avez dit que c'était.
E.M. Carroll, c'est une...
Voilà, l'autrice.
Je crois que c'est une autrice.
Elle a eu le temps de développer son propos, quoi. Ça, c'est cool. Et puis, ce genre d'ambiance, de toute façon, il faut que ça... faut pas trop précipiter les choses quand tu veux rentrer dans ce genre de...
faut laisser durer, faut que tu t'installes, en fait. Faut que toi, t'aies même l'impression de t'installer dans cette maison. Faut que tu sentes l'errance et la détresse, la solitude de cet habit, et qui est vraiment une... Puisque c'est une jeune femme, du coup, tu sais même pas si elle l'aime, ce gars. Lui, ça a l'air d'être un gars pas hyper sympa, qui se dit, qui par convention en fait a une femme.
J'imagine un dentiste avec une moustache.
il a une moustache, tout à fait. Et du coup, c'est en plus c'est plein de surprises parce que moi il y a des trucs auxquels je m'attendais vraiment pas dedans. Donc ouais, c'est ça, entre le l'horrifique et le psychologique. C'est vraiment hyper chouette. Ouais. Vraiment une très très belle BD, donc une invitée dans la demeure chez 404.
Un bel exemple de ces albums qui se font maintenant là, avec vraiment du grand format et vraiment du bel objet hyper soigné quoi.
Ouais, puis ces derniers temps là, c'est vrai que 404 éditions a fait des très très belles parutions. Il y avait Au Dedans qui était notable là, de Will MacPhail, ça a été un gros coup de cœur chez nous aussi. Non, ils ont un don pour trouver là des petits auteurs. Bon, c'est souvent des auteurs canadiens ou américains, mais vraiment hyper chouette.
Interlude musical.
Allons-y, un petit Dix comme dirait l'autre.
Un petit Dix comme dirait l'autre. Du coup, j'ai été chercher dans mes souvenirs d'adolescence. Bon, les Sisters of Mercy.
Oh yeah.
Bon, j'avoue, je me suis fait un kiff. J'avoue, je me suis fait un kiff. Le morceau est un peu plus long.
Il est rentré dans une transe.
J'ai eu des flashbacks. J'étais jeune, insouciant et encore bien roux. Et j'avais la vie devant moi. Vous avez lu, je crois, le dernier album qu'on va pouvoir chroniquer dans cette émission, puisqu'on a une interview à écouter, Leave Them Alone.
Oui, tout à fait.
On en a parlé tout à l'heure, et c'est un western, et d'habitude j'aime bien les westerns, mais celui-là, je l'ai trouvé assez âpre et assez dur, en fait.
Parce qu'il a soulevé des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas.
Oui, mais c'est tout l'intérêt, en fait, de cet album. Leave Them Alone, c'est foutez la paix aux meufs, quoi. Parce que c'est les personnages féminins qui sont mis à l'honneur, les pauvres, qui sont au cœur de cet album. Et notamment, on nous fait découvrir, moi j'avoue que j'y avais jamais vraiment pensé, même si effectivement on voyait quelques agressions sexuelles des fois dans des westerns, que effectivement le Far West, la frontière, la zone de la liberté, etc., pour les femmes... ça devait être quelque chose de finalement hyper angoissant parce que vous étiez une victime, quoi.
On le voit régulièrement parce que les femmes sont souvent représentées comme des prostituées dans les saloons, etc. Mais là, mais là, dans leur vie, en dehors du saloon, elles se font maltraiter aussi, ouais.
Oui, mais même la prostituée qui est dans cet album, elle n'est pas comme on pourrait avoir une Marilyn Monroe qui joue de la guitare, tous les hommes fantasmes ou qui ont de la gouaille, etc. Elle est vraiment aussi présentée comme une victime. Elle n'aime pas du tout ce qu'elle fait, quoi.
Ben non.
Elle n'aime pas du tout ce qu'elle fait, quoi.
On comprend assez rapidement
avec
pourquoi.
Avec des vieux crassous, etc. Non, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que Leave Them Alone ? On est en 1874, dans l'Ouest américain, dans une zone un peu frontalière, une zone un peu de non-droit, comme ça. Tout va tourner autour d'un relais, le Dead Indian Peak, qui est tenu par une dame un peu âgée, Marianne Potter, et puis sa jeune petite-fille.
Petite-fille, ouais.
C'est ça, Elfie. Qui va avoir ses 18 ans dans cet épisode. Elles tiennent donc ça. Elles ont un ami avec eux, un Navarro, qui est là. Et tous les trois, ils servent de relais pour la Wells Fargo, pour les diligences de la Wells Fargo. Et les diligences de la Wells Fargo dans cette zone-là sont régulièrement attaquées par une bande d'affreux qui sont vraiment des affreux. Ah, on les découvre dans la scène d'entrée. La scène d'entrée, voilà, ils ont attaqué la diligence, ils tuent tout le monde. Et puis, comme il y a des femmes, les prédateurs sexuels se lâchent, quoi. La scène d'intro, déjà, nous plante un peu le décor.
Hard, ouais.
Ouais, elle est bien hard. Mais ce qui va être terrible, c'est que, en fait, ces agressions sexuelles, tu vas en avoir plusieurs dans l'album. Ouais. Tu te dis, ok, c'est pour nous faire comprendre, c'est moche, etc., mais c'est pour nous faire comprendre que c'est vraiment les méchants. Mais en fait, non, tu t'aperçois que y a plein de types qui pensent qu'à ça, quoi. Et puis, dès qu'il y a une nana qui est un peu toute seule, soit parce qu'elle est dans l'écurie, soit parce qu'elle est dans sa petite charrette et tout,
C'est direct, ouais.
Ah ouais, c'est, c'est affreux.
En même temps, est-ce que c'est si étonnant? Enfin, c'est horrible.
Ça paraît logique, en fait.
Voilà, c'est ça quand on voit aujourd'hui.
C'est un truc auquel, sans doute, on ne pensait pas. C'était invisibilisé ou vraiment occulté.
Ouais.
Jamais on a vu un film avec John Wayne où il y avait ça. Je suis désolé. les westerns avec John Wayne étaient quand même beaucoup plus simples.
mais là, ça prend une dimension sociale et politique, du coup.
Clairement.
C'est intéressant.
Ouais. Et donc, tout va tourner autour de ce relais parce qu'en fait, on va avoir une diligence qui va arriver dans ce relais qui va transporter un coffre. Comme la Wells Fargo en a marre, ce coffre est piégé. Mmh. Voilà. Donc il y a le coffre qui va arriver là, un personnage assez mystérieux, peut-être le type le plus sympa, le Clint Eastwood, on va dire, de cette bande dessinée, le cavalier solitaire de cette bande dessinée va arriver aussi là, les affreux vont arriver aussi là, et puis un autre personnage, la prostituée qu'on a évoquée, qui en fait essaye de s'échapper de son saloon de misère, qui arrive avec sa petite carriole, va aussi arriver là, et tout le monde va se retrouver, impliqué dans l'histoire de ce coffre, quoi,
ouais,
qui contient une forte somme d'argent. Scénaristiquement, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements.
Oui, C'est vrai.
Il y a vraiment beaucoup de surprises. On découvre qui est le personnage de ce cavalier. Il s'appelle Liu, je crois, ou quelque chose comme ça. Plus. Qui est ce type mystérieux qui arrive dans ce relais. On découvre le passé de pourquoi cette petite elfie est élevée avec sa grand-mère. La prostituée aussi. On découvre tous ces personnages. Il y a plein de rebondissements. Mais vraiment, le truc qui est marquant, c'est cette thématique hyper présente. Qui, du coup, en font un western, c'est pas un blockbuster de divertissement, quoi. Et c'est aussi le côté très intéressant de cet album. Moi, j'ai fait des petites pauses par moment, j'avoue, dans la lecture.
C'est ce que vous me disiez, que c'était un peu trop.
Oui, c'était un peu trop, parce que vraiment, dès que la nana se retrouvait tout seule et qu'elle tombait sur deux Mexicains, mademoiselle, madame, qu'est-ce que tu fais là? Non.
Et en même temps, c'est vrai que, elles sont malmenées, ça peut effectivement être gênant beaucoup, mais en même temps, ça montre à quel point, jeune femme a. Enfin, où ces jeunes femmes ont ces envies de partir, de liberté, s'émanciper, de quitter toute cette atmosphère dégueulasse, quoi.
Hyper toxique.
Et en même temps,
on est dans le règne du flingue. De toute façon, on est dans le règne du flingue, de la loi du plus fort,
exactement.
La loi du prédateur. C'est très efficace graphiquement.
Ouais.
C'est un dessin réaliste. On est toujours dans. C'est Chris Regnault, donc on l'a déjà vu. Il a déjà fait de la bande dessinée. Mm-hmm. On l'avait taquiné une fois avec Roger sur le dessiner les chevaux. Et j'ai regardé parce qu'il nous avait dit, moi j'ai un truc. La poussière, ça te permet d'éviter, tu vois, les pattes, les sabots, c'est toujours le truc chiant. Donc j'ai regardé ça,
il n'a pas mis trop de poussière.
Non. J'ai toujours trouvé qu'il faisait très bien les décors, parce que c'est vraiment l'Ouest, avec je ne sais même pas comment on appelle ces formations rocheuses, là, ces pics et ces plateaux,
qui sont images
d'Épinal. Le découpage aussi est très efficace.
Oui, c'est hyper dynamique.
C'est vraiment un très bon one-shot. Roger, alors c'est Cetter au scénario, je dois avouer que je ne connais pas le monsieur, Chris Reynaud au dessin, c'est paru chez Grand Angle, et le titre est vraiment très parlant, Leave Them Alone, et c'est même marrant que les deux personnages soient en dos à dos comme ça, en mode défense, je te proteste, tu me protèges, armé de flingues.
Ouais. La sororité illustrée.
La sororité illustrée, la sororité combattante, exactement.
Bon, on en est là, hein.
Oui.
Aujourd'hui, malheureusement.
Oui, c'est vrai. Mon Dieu, triste monde. Qu'est-ce que je voulais dire? Il va être temps de retrouver Roger, d'une certaine manière.
Mais oui.
Puisqu'on va se téléporter à Quai des Bulles.
Ouh, je sens un petit peu de vent, là. Ouh, les embruns.
Un effet à la Scooby-Doo. On va retrouver, alors, Roulen, je ne sais plus comment on le dit, Ribas. Notre petit basque espagnol qui a fait ses gros efforts, et vraiment c'était choupinet.
C'est sympa, parce pas évident.
Oui. Qui nous a fait donc le plaisir de venir discuter avec nous, alors que c'était à mon avis un vrai challenge pour lui. Il venait présenter Artifice, sur l'album qu'il a dessiné, qui est paru aux éditions Daniel Magen. Une histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Houdini en train d'essayer d'épater la galerie en Algérie coloniale. Voilà, interlude musical, et puis on retrouve tout ça.
Pouf. Allez.
Yeah. Et bien voilà, nous sommes encore et toujours à Quai des Bulles, nous en sortirons peut-être jamais. Et nous sommes maintenant le samedi après-midi, et pour notre première rencontre, nous rencontrons monsieur Roulen.
Julen
Ribas. Vous êtes né au Pays Basque en 1981, c'est ça?
Oui.
Voilà. Et merci monsieur B. Et comment dirais-je, la première question que l'on pose aux auteurs ou aux autrices, alors qu'on les rencontre pour la première fois, ce qui est votre cas, c'est de leur demander comment ils sont tombés dans la marmite de la bande dessinée. Comment vous êtes tombés dans la bande dessinée?
Mais bonjour et merci de m'inviter. Et, je crois que c'était beaucoup de casualités. Je ne sais pas si c'est bien dit en français, casualité. Et j'aime beaucoup le dessin et la peinture et tous les formes de fiction, comme la littérature et le cinéma aussi, et la musique aussi. Donc je crois que j'ai trouvé dans la bande dessinée tout ça que j'aime. Donc petit à petit, je vais faire un cours, les études d'art graphique à Barcelone, à l'école Rousseau. Et j'ai commencé à connaître des gens du média, et peu à peu j'ai...
Ok. Quelles sont les autrices ou les auteurs qui vous ont marqué quand vous étiez plus jeune? Parce qu'en Espagne, moi je connais un magazine, dans les années 80, il y avait El Vibora.
Oui.
Ça existe toujours?
Maintenant non, mais ça a été un classique, mais je crois que je connais les BD principalement pour les classiques comme Tintin et Astérix et Obélix. On a eu ça traduit à notre langue, de la langue basque. Et après, je ne sais pas, j'ai tombé sur quelque chose plus adulte, plus comme... je crois que c'était la traduction de Metal Orlan.
Oui.
Oui. Heavy Metal, quelque chose comme ça. Et j'ai vu là... tout ça que j'aime, des histoires de science-fiction, des plus gens plus adultes.
Bien sûr.
Ouais. Et ça commence.
Alors, dans votre biographie, on voit que vous abordez de nombreux genres, mais particulièrement l'histoire et ses conséquences politiques. Ah, ça ira. Ça semble vous intéresser particulièrement. Vous appréciez ce style?
Comme dessinateur, je veux faire toutes les choses. Je veux grandir comme dessinateur, comme créateur. Donc, je n'ai pas un planning pour choisir les types d'histoires. Mais c'est vrai que dans l'historique, tu dois dominer tous les aspects du dessin, de la perspective, les animaux, les personnes. Donc, vraiment, je ne choisis pas. Donc, je trouve... Et pour hasard, les projets, les différents projets.
Avec les rencontres qui se font, etc.
Quand je connais quelques scénaristes ou quelque chose comme ça, ils me proposent des choses.
Et si ça vous plaît, vous signez.
C'est ça.
Okay. Justement, puisqu'on parle de rencontres, comment avez-vous rencontré M. Mathieu Mariol?
Avec qui, donc, on ne l'a pas dit.
Vous avez réalisé
Artifice, un magicien en Algérie, aux éditions Daniel Maguen.
Je crois qu'il m'a contacté en 2014 pour, je ne sais pas, je ne me souviens pas si ça était pour Facebook ou pour Internet. Et il m'a proposé de faire quelque chose. Il m'a proposé un western et après l'histoire de Robert Houdin. Et j'ai choisi l'histoire de Robert Houdin parce que quand j'ai pu lire les synopsis, Ça m'a projeté des images très 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 puissantes. J'ai choisi ça et on a commencé, mais il n'y a pas fonctionné. Quelqu'un s'est intéressé et on a mis le projet. Oui. Et après, je crois que en 2022 ou quelque chose comme ça, il a fait un post sur Facebook en disant j'ai deux projets qui ils ne marchent pas.
Ils n'ont pas trouvé éditeur.
Oui. Et je crois que Daniel Marin et quelques d'autres, ils sont intéressés. Mmh. On a commencé à parler et finalement on a réussi.
Et ça c'est comme quoi la persévérance.
Oui,
des fois. Hein. Mais qu'est-ce qui vous a, vous dites que ça vous a fait venir des images, qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire? C'est le magicien, c'est l'Algérie, c'est l'histoire?
C'est tout. C'est le côté magique. Et après, j'aime beaucoup la peinture. Donc, toute cette époque, de tous les peintres du 19e et début du 20e siècle, j'aime beaucoup la peinture. Orientaliste, oui. Et tous ces côtés magiques et tout. Donc j'ai profité pour faire de la peinture aussi avec des aquarelles que j'aime.
Alors je dois vous avouer que on ne connaissait rien de cette histoire et pour préparer l'interview, on a vérifié quand même. On se dit parce que votre histoire raconte. Donc on est pendant la conquête de l'Algérie. Hein, les Français sont déjà installés à Alger, mais le sud de l'Algérie reste encore largement en insurrection. Les Algériens ne veulent pas entendre parler de la présence française. Et dans cet ouvrage, vous nous racontez un truc de dingo. Robert Houdin, qu'on connaît surtout sous le nom de Houdini, en fait, magicien célèbre, alors qu'il est en retraite, va être contacté par l'armée française pour faire une série de représentations en Algérie afin d'essayer de casser l'emprise que pouvaient avoir les marabouts ou les espèces, sorciers, entre guillemets, ou les magiciens, entre guillemets, algériens, soupçonnés d'être les instigateurs de la révolte. Et donc l'idée des militaires, c'est de se dire que Robert Houdin, grâce à ses tours, va épater les Algériens et ils vont se dire « Oh, oh, les Blancs sont encore meilleurs, les Français sont de meilleurs magiciens que nous ». On n'a plus intérêt à découvrir, à se rebeller. C'est incroyable, cette histoire-là.
Oui, il y a des gens qui me demandent si l'histoire, c'est vrai ou pas.
Mais oui,
pas
c'est vrai.
Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai. Ouais. Je crois que nous avons des personnages vrais, des faits vrais, mais je ne sais pas comment la fiction est...
Oui. C'est-à-dire que votre scénariste a sans doute rajouté des éléments, etc.
Oui, il a bouché des trous. Oui,
mais oui. Robert Houdin a effectivement fait une campagne en Algérie afin de montrer effectivement la puissance de la magie occidentale face à la magie orientale. C'est incroyable.
Oui, oui, oui. Mm-mm. C'est une très belle histoire. Oui.
Ouais. Et comment vous travaillez avec Monsieur Mariol? Comment ça se passe? Il storyboard, où il donne quelques indications et vous avez une grande liberté. Comment fonctionne le duo?
Toujours c'est un ping-pong. Je reçois le scénario, j'ai fait un petit croquis, et c'est juste pour moi. Et après, je commence à le dessiner en numérique. Et je l'envoie avec tous les tests, tous les volts, ça. Et si ça les plaît à Mathieu et à notre. À Vincent, à l'éditeur de Daniel Marin. Je nettoie tous les crayons et tout ça, et je prépare en planche et en bon papier pour faire tout l'encrage, et après des aquarelles avec les pinceaux, oui.
Alors, comment vous avez travaillé sur le personnage de Robert Houdin, ce fameux Houdini des photos, des images d'époque, des représentations?
Oui, j'ai trouvé plusieurs photos de lui en blanc et noir, évidemment. Mais pour tout le reste, j'ai pas beaucoup d'informations. J'ai trouvé aussi des affiches de l'époque, de son actuation et tout ça. Et après, pour les ports d'Algérie, j'ai trouvé une vidéo très très vieille, une ancienne vidéo, oui, mais avec des bruits, avec une image un peu mauvaise, mais ça fonctionne pour moi pour avoir suffisant matériel et commencer à faire l'artifice.
Alors cette histoire, elle nous renvoie à la tragique histoire de la colonisation. Les Français ont été effectivement à la pointe de ce phénomène, hein, puisque une bonne large partie de l'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale, un peu en Afrique orientale, etc. Est-ce que c'est un événement historique qui vous touche, qui vous marque, cette espèce, le fait colonial, ce qu'on appelle le fait colonial, la volonté de certains de s'imposer sur d'autres ?
Oui, pour moi, la colonisation, c'est l'histoire de l'être humain. Donc, bon, j'ai douté au début, au départ, pour savoir qui prenez-vous en ce cas, c'est Mathieu Mariol. Donc, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas à représenter le fait de la colonisation et tout ça. Il m'a dit non, on ne va pas faire en blanc et noir, on va faire des nuisances, on va faire des... Donc, et ça me plaît et c'est pour ça que j'ai accepté de travailler comme ça.
Si je ne dis pas de bêtises, vous avez aussi réalisé les couleurs.
Pardon ?
Vous avez aussi fait les couleurs,
oui,
la colorisation.
Oui,
alors pareil, c'est l'Algérie, quoi. Donc c'est des lumières, c'est...
Le soleil, le...
Ouais, oui, oui. Et comment vous avez traité ça, du coup ?
Comme du diamant, j'aime beaucoup la peinture de 19e, mais on a beaucoup de matériel de peinture de l'époque. Donc tu peux essayer de copier ça, de faire un truc pareil. Je ne sais pas si on a réussi ou non, mais j'ai m'amusé beaucoup avec les trucs, oui.
Alors, il y a un truc qui est rigolo. Au niveau des couleurs, le choix de vos couleurs, elle est un peu pâlie. C'est comme si... Alors, est-ce que c'est le soleil de l'Algérie qui a fait pâlir les couleurs ou est-ce que c'est le temps?
Je ne sais pas, et peut-être c'est ma limitation technique, je fais ce que je peux. Donc, je ne sais pas, j'essaie de représenter ce qui me vient à ma tête, donc je ne sais pas. Et après, c'est vrai que l'aquarelle, il est une technique très difficile de reproduire, donc, mais c'est vrai que chez Daniel Marin, ils ont fait un beau travail.
Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, les éditions Daniel Maghen, du coup, justement ?
Et beaucoup de confiance. L'édition, c'est sublime. Je crois qu'ils font. Ils font des éditions très, très belles. Et après, les côtés pour exposer les originaux et tout ça, pour moi, c'est...
Oui, dans la galerie à Paris.
Oui.
Vous avez exposé déjà des planches?
Non, déjà. Peut-être il m'a parlé de faire une exposition sur le web,
ouais,
de Daniel. Et on va voir si ça marche ou pas. Oui.
Erwan.
Alors, dans cette histoire, Houdini va rencontrer plein de personnages, l'adversité, et notamment une héroïne algérienne que l'on découvre, un personnage très très fort, qui va être celle qui offre le plus de résistance quelque part à Houdini. Une Jeanne d'Arc, ouais, c'est ça, une Jeanne d'Arc inversée. C'est un personnage de fiction ou elle est inspirée de...
Je crois que c'est fiction.
Mais c'est une métaphore, en fait, une fiction, certes, mais c'est quand même une métaphore parce qu'il y a un dossier à la fin de l'ouvrage où on parle justement de... Il y a eu des résistants algériens, certes, mais il y a eu également...
Des résistantes.
Des résistantes, femmes et résistance. Et les femmes ont lutté avec leurs hommes ou sans leurs hommes contre la colonisation française. Et c'est tout le mérite de cet ouvrage que de rendre... hommage à ces femmes, parce que souvent dans l'histoire, les femmes sont invisibilisées, elles disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé, et pourtant elles sont là et elles agissent.
Oui, c'est vrai, on a un devoir ouais, pour reprendre ces figures, ces femmes. Parce que le monde nous n'avons pas seulement des héros, on a aussi des héroïnes et je crois qu'elles peuvent être plus grandes que nous. Donc on doit faire...
On doit quand même le reconnaître.
Ouais. Oui.
Oui. Vous qui l'avez beaucoup côtoyé finalement, ce Houdini, comment vous le jugez dans cette expérience algérienne qu'il a vécue? Quel regard vous portez sur lui, vous?
J'essaie de ne juger pas. Parce que tu dois porter les pieds de chaque personnage pour entendre sa motivation. Mais je crois, je ne sais pas si on fait des spoilers ou non, si on raconte ça, mais je crois qu'il fonctionne, non, il, ça forme de porter les conflits, mm-hmm. ce chapeau.
Oui, oui.
Parce que ouais, c'est un homme brisé, sans raconter la fin du livre, mais c'est un homme brisé qui rentre chez lui, en fait.
Pardon, mais...
C'est un homme brisé parce
que
vu comment cette histoire va se
marqué
terminer,
par la vie.
marqué par cet événement, il est totalement anéanti en fait.
Oui, oui, oui.
Et puis il a un peu de mal à collaborer avec ce projet
début,
militaire
oui,
parce
oui,
que
oui.
Enfin il est pas super à l'aise avec ça.
Il doute beaucoup, mais je crois qu'enfin il fait le balance de.
Oui.
De bon, si j'y vais. Je crois que je peux aider plus à
pacifier. À enfin, mais pas pacifier, éviter des morts.
Éviter des morts, éviter c'est des ça morts, qu'il
c'est
veut.
Ça.
Ouais.
Ouais. On le découvre plein d'humanité.
Ouais. Et il partage pas le délire colonial de l'armée, mais il se dit si au moins je peux éviter des morts. Et en fait, non.
Non, mais si je peux faire quelque chose. De les faire.
Ah. Ouais, une belle histoire, une histoire tragique et à mille lieues de ce que l'on connaissait d'Houdini. Pour moi, Houdini, c'était le magicien, point.
Ouais. Et le showman.
Le showman. Et là, on découvre un autre bonhomme tout à fait méconnu.
Mais Houdini, ça a été un autre magicien qui a appris le nom de Robert Houdini. Je crois que Houdini, ça a été un magicien tchèque de la République tchèque, je ne sais pas. Donc il a prenu le nom de Houdini en hommage à Robert Houdin.
Mmh.
C'est pas les mêmes personnes.
Okay.
Non, ils sont pas les mêmes.
Ah moi je les voyais, je les.
Moi aussi.
Je les superposais.
Oui, ouais, moi aussi, ouais.
Ah ouais.
Moi
aussi. Ouais. Ah bah voyez, après... vous nous avez appris un truc.
Ah bah oui.
Comme quoi vous le connaissez mieux que nous.
Ah bah, c'est... bah oui.
Comme quoi ?
Non, en fait, on le savait, c'était pour voir si vous le saviez.
Ah, ok. Vous êtes très bon, très
bien
bon.
Bien joué, hein. Bien joué, Monsieur Plume, bien joué. Alors, comment vous avez réalisé ? Alors, il y a une question qu'on aime bien poser à toutes nos autrices et nos auteurs qu'on rencontre, c'est comment ils ont créé la couverture de leur ouvrage. Est-ce que vous avez eu entièrement les mains libres pour dessiner la couverture, faire le choix de la couverture, ou est-ce que Monsieur Mariol est intervenu ? Est-ce que Monsieur Maguen est intervenu ? Est-ce que vous étiez libre ?
Les éditeurs, ils sont intervenus et Mathieu aussi, mais je crois que la couverture, c'est toujours une folie, un bordel. Tout le monde tombe malade parce qu'on doit faire les meilleures couvertures du monde parce que ça va aider à vendre. Je ne crois pas en ça. Peut-être il a importance, il est important, mais pas assez important. Je crois que tu dois faire une couverture et tu raconter les vérités. Pas promettre quelque chose qu'après on va trouver, pas. Mais pas tous les psychoses qu'on doit faire.
Ouais.
Et d'abord, j'ai fait un autre essai pour la couverture, mais ça ne marche pas, donc on a retrouvé ça et je l'ai peinté. Avec des acryliques. C'est une autre technique, plus puissante, mais bon, c'est comme ça. L'histoire de la couverture, c'est un autre monde.
Mm-hmm. Alors, on y voit Monsieur Houdin en plein exercice, avec tout un tas d'objets et un petit orangé pour bien nous faire sentir l'ambiance orientale, en fait.
Oui, oui,
c'est ça. Et en arrière-plan, on imagine le désert, les roches, l'ambiance algérienne. Et de nuit, une scène de nuit comme ça, avec un très beau ciel bleu étoilé. Ouais. Vous êtes inspiré de vrais objets pour
le tableau et tout ça.
Ouais.
Oui. On a trouvé un affiche de l'époque très pareil à ça. Donc on a pris ça comme inspiration. Et après, j'aimais tous les armes et tout ça. pour donner un peu de plus de crédibilité et faire une référence à l'époque aussi.
Ouais. Est-ce que vous avez des projets, comment dirais-je ? Quels sont vos projets après cet album ?
On va essayer de faire quelque chose ensemble. Et
avec Monsieur Mariol ?
Ah, oui, avec Mathieu, mais on attend. On a déjà envoyé sur des différents projets, donc on attend.
Ouais, il n'y a rien de défini
oui,
encore.
Oui, oui, non, parce que j'ai peur à raconter après.
D'attirer le mauvais œil.
Oui.
Superstitieux.
Oui, un petit peu.
Vous avez un collègue ici qui a des patrons de Kennebul qui est pareil. Pourtant, Dieu sait si on le connaît depuis longtemps. Mais il dit non, on ne parlera pas de ça tant que c'est pas sec dans ma poche.
Oui. C'est comme ça. Je préfère dessiner et après.
Eh bien, vous avez raison.
Ouais, c'est pas tort. J'ai une dernière petite question. Je trouve ça toujours intéressant. Vous avez dédicacé l'album.
Oui.
C'est lequel le personnage que vous demande le plus ?
Ils sont les deux, Robert Houghton et Nelia. Les deux plus aimés pour le public.
Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une proportion quand même de personnes qui demandent les personnages féminins. Oui, les personnages féminins ont la cote. Et là, avec l'ambiance orientalisante, j'imagine que vous devez être très sollicité.
Vous avez vu du monde déjà là, à cette année à Kennebul ? Il y a beaucoup de monde qui vient vous voir, vous avez dédicacé.
Oui, j'ai plein de travail et je crois que maintenant je dois faire des dédicaces.
Oui, ouais. On a eu des consignes. Vous devez retourner sous le stand, attention.
Et demain matin, je reviens.
Est-ce que Emmanuel Klein est gentil avec vous ?
On peut dire les.
Oui. Alors, méfiez-vous, elle écoute nos émissions.
C'est la meilleure. Je l'aime même beaucoup. Oui.
Alors, par contre, vous pouvez lui raconter des tas de choses. Elle aime bien les belles histoires.
Elle est très crédule. Et mettez un peu de magie là-dessus et vous allez voir, vous allez l'embarquer. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir parlé en français.
Merci à vous.
Et vous parlez très bien. J'aimerais bien parler aussi bien que vous.
Oui. L'espagnol à l'espagnol. Je maîtrise pas
merci
du tout.
Merci à vous.
Mais en tout cas, merci d'être venu. C'était très sympa.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Eh ben, merci à Monsieur Ribas d'avoir répondu à nos questions.
Hein. Fort sympathique.
Ouais, c'est... puis j'aime bien ce petit accent. Enfin. c'est exotique.
Oh, non, on peut plus faire ça.
On peut plus faire ça. Bon, en tout cas, il était très sympa et on l'a recroisé plusieurs fois. Et apparemment, il était très content.
Ah chouette. Mais vous êtes bon, des bons intervieweurs tous les deux.
Allez, vous reviendrez vous aussi. Vous êtes trop fort. Putain, la manipulation, j'ai rien vu. En tout cas, merci d'être venu présenter l'émission avec moi aujourd'hui, Matadora.
Ah bah, c'est toujours un plaisir, et merci.
Plaisir partagé. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec un de vos comparses.
Oh, certainement Fifrelin.
Certainement Fifrelin. Allez, on prend Fifrelin.
Ça va, c'est bien.
Ça le fera. Ça sera très cool. C'était donc la 514e émission de Plume et Pinceau. Émission de bande dessinée de Canal B. Et puis, pour finir, encore une fois, une pensée fort affectueuse à Marie-Jo.
Ouais.
Voilà. Au revoir.
Merci, au revoir.
À la semaine prochaine.